Salut les extraterriens. Est-ce que vous prenez soin de votre épargne? Moi, j'ai eu la chance d'avoir un papa qui m'y a plongé tout de suite. Depuis tout jeune, j'ai appris à placer mon argent. Une autre activité que j'avais avec mon père, c'était de préparer le marathon. Et récemment, j'ai eu une réflexion que je voulais te partager. La course et le sport en général, c'est un peu comme l'épargne. Ça fait toujours peur au début, mais on ne regrette jamais d'avoir passé le pas. Plus on commence tôt, plus on est avantagé toute sa vie. Pour se lancer, le mieux, c'est d'avoir un plan et de s'y tenir dans la durée. Et enfin, pour réussir, il n'y a pas de secret, il faut être constant sur le long terme. Ça fait beaucoup de métaphores, vous ne trouvez pas? C'est pour cette raison que je voulais te présenter Quorum L'Épargne, notre partenaire. Quorum L'Épargne, c'est une entreprise dont la mission est de vous donner les clés pour naviguer dans le monde de l'épargne qui peut paraître complexe. Il propose des solutions d'épargne long terme et performantes qui sont à la fois transparentes, car c'est fondamental de comprendre où on place son argent, et accessibles, car certaines de leurs solutions permettent d'investir dès 50 euros. Donc c'est vraiment adapté à tout budget et on peut même y investir un petit montant pour se lancer. Bon, je vous rappelle qu'il faut toujours être vigilant et comme tout investissement, il y a toujours des risques. C'est également pour ça qu'il faut choisir un partenaire de confiance pour se lancer. Sachez que Quorum L'Épargne, c'est une équipe très sérieuse et un savoir-faire depuis de nombreuses années, des objectifs atteints depuis 12 ans. Ils accompagnent au quotidien plus de 120 000 épargnants et je leur fais confiance. J'ai moi-même ouvert un compte pour performer autant sur la piste qu'avec mon épargne. Pour finir, sachez que Quorum L'Épargne et le sport, c'est une histoire qui dure. Ils ont longtemps été engagés dans la voile et récemment, ils ont décidé d'accompagner 21 athlètes comme François Daen, Solène Pierret, que vous avez pu écouter sur le podcast Extraterrien. Donc la performance, c'est vraiment dans leur ADN et d'ailleurs, si vous souhaitez suivre la performance de leurs athlètes, allez sur le compte Instagram @quorum.sport. Bon épisode! Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Barthélémy et je suis ravi de vous accueillir pour ce nouvel épisode du podcast Extraterrien. Dans ce podcast, j'interview des sportifs vraiment hors du commun. Le but est de vous partager leurs secrets, leur vie et d'en apprendre beaucoup plus sur eux afin d'en tirer un maximum de conseils pour votre vie sportive, votre vie personnelle, mais aussi votre vie professionnelle. Donc si vous aimez le sport, l'aventure, le développement personnel, la préparation mentale, ou que vous aimez tout simplement vous inspirer de parcours et d'histoires remarquables, alors ce podcast est vraiment fait pour vous. Cet épisode est un petit peu atypique, car je suis allé à la rencontre d'un sportif amateur. Amateur dans le sport, mais pas nécessairement dans la préparation mentale. Grégor Osbolt est coach, et il aide des sportifs, des salariés et des entrepreneurs à dépasser leurs limites. Pour prouver que ses propres méthodes fonctionnaient, il s'est lancé un énorme défi, celui de traverser la Manche à la nage alors qu'il n'est pas forcément un nageur professionnel. Ce projet lui a pris un an et demi à préparer et vous verrez que son parcours a été semé d'embûches. L'aventure en vaut vraiment la chandelle et prouve que n'importe qui peut se dépasser et réaliser un challenge qui lui est cher. Vous allez voir, Grégor nous parle un petit peu des outils qu'il a réussi à mettre en place et de petits exercices de préparation mentale. Donc écoutez, ça devrait vous plaire. Juste avant de commencer, j'ai deux messages à vous faire passer. Vous le savez, un exploit se fait toujours grâce à un excellent public. Donc si vous aimez le podcast et que, comme moi, vous souhaitez que ce podcast entre dans la légende, parlez-en autour de vous à vos amis sportifs. Si vous avez Instagram, vous pouvez aussi faire une petite capture d'écran de votre épisode préféré et la partager en story. Taguez-moi et je vous repartagerai. Il y a même une option spéciale sur Spotify et sur Deezer. Je vous rappelle aussi que le podcast a un compte Instagram, extraterrien.podcast. Vous y retrouverez les coulisses du podcast et c'est aussi un excellent moyen pour me contacter et me faire vos retours en direct et notamment me suggérer des invités. J'ai également créé une newsletter que vous pouvez retrouver très facilement dans Google en tapant « Extraterrien newsletter ». J'y partage mes lectures du moment, des documentaires, des bons plans pour être en meilleure santé, des bons plans matériels et aussi des petits exercices et des conseils de préparation mentale. Si vous me suivez depuis le début, vous savez que je ne vis pas encore du podcast et que j'ai une autre activité à côté. Actuellement, je suis en discussion avec quelques marques qui pourraient sponsoriser, pourquoi pas, un épisode. Ces marques ne regardent qu'une seule chose, à savoir les notes iTunes. Donc je remercie infiniment tous ceux qui en laissent, car vraiment, cela m'aide beaucoup à trouver un partenaire et pourquoi pas bientôt en vivre. Donc si vous ne l'avez toujours pas fait, pensez à aller mettre une note sur Apple Podcast, c'est vraiment ce qui m'aide le plus. Si vous n'avez pas de téléphone Apple, vous pouvez toujours prendre celui d'un ami, ça marche aussi. Allez, j'arrête mon petit blabla et je vous laisse avec l'invité du jour, Grégor Ausbolt.
Allez go.
Allez, on est parti.
Vas-y.
Salut Grégor.
Salut.
Bah, écoute, je suis hyper content de te rencontrer.
Moi aussi. Bienvenue à Lyon.
Ouais, merci, merci. En tout cas, bah, je suis bien accueilli. Tu vois, ce matin, je rencontre Johan, je te rencontre toi. Donc en tout cas, le voyage valait le détour.
Génial.
Tu t'avais pris contact avec moi parce que t'écoutais le podcast.
Ouais.
Et tu m'as raconté que t'avais préparé un projet de ouf. Sachant que t'es pas du tout un professionnel et que t'es plutôt dans le milieu du développement personnel, on en parlera un peu après.
Ouais, pas de problème.
Mais du coup, je suis hyper content parce que je crois que t'es le premier officiellement coach développement personnel qui vient sur ce podcast, et j'avais l'intention d'en interviewer plusieurs. Donc ça va être super cool.
Top.
J'ai hâte. Et écoute, comme je te le disais, je commence tous les épisodes avec une même question. C'est la tradition sur le podcast, c'est de savoir quel est ton premier souvenir de sport.
Et mon premier souvenir de sport, il est très simple. Je devais avoir aux alentours de 2 ans et demi, 3 ans. Mon grand-père avait une piscine dans les Hautes-Alpes et il avait une petite marotte avec tous ses petits enfants. C'était de donner une pièce de 10 francs à ceux qui étaient capables de traverser la piscine. Et donc, c'est ça mon tout premier souvenir de sport, c'était d'aller en crawl, de sauter et de faire, c'est une piscine qui faisait aux alentours de 17 mètres, je crois.
Ouais.
Et de passer, il y avait un très très grand bain et il fallait être capable de passer et de nager jusque là-bas. Donc je devais avoir 2 ans et demi, 3 ans, j'ai appris à nager très très tôt.
Ah ouais, voilà. Effectivement, ouais. 3 ans c'est hyper, hyper
ouais,
jeune. Ouais,
ouais, j'avais 3 ans.
Et t'as appris comment, tout seul ou
non,
Bien
sûr, j'ai appris grâce à ma mère et mon grand-père. Mon grand-père était un nageur de fond et de water polo, toujours de manière amateur. Et ouais. Ma mère aussi, pareil, qui est aujourd'hui prof de sport, retraitée prof de sport, mais qui m'a donné le goût de la natation puisque c'était sa spécialité. Voilà, c'est comme ça que j'ai appris à nager. Donc c'est un très très bon souvenir. Et en face de cette piscine, il y avait aussi un très grand lac qui s'appelle le lac de Serpenson. Et j'allais y nager très souvent quand j'étais tout petit, et j'ai démarré dans la piscine et après petit à petit j'ai commencé à migrer vers le lac. Voilà.
Okay, super, c'est ouf. Et du coup, t'as toujours nagé quoi. T'as toujours été un gros nageur.
J'ai toujours aimé nager. Être un gros nageur, j'ai toujours aimé nager. C'est voilà.
Ok. Et qu'est-ce qui fait que t'aimes nager? Parce que écoute, moi j'ai fait pas mal de triathlon, tu vois, et m'entraîner. Alors j'ai fait plus de piscine que d'eau libre, mais j'avais vraiment du mal, tu vois. J'ai mis beaucoup de temps avant d'aimer nager. Toi, c'était qu'est-ce qui te plaît dans la nage?
Ce que j'aime vraiment dans la nage, c'est vraiment le contact de l'eau.
Ouais.
C'est vraiment ce côté-là. Et il y a un deuxième phénomène qui se passe quand je mets la tête dans l'eau. À un moment donné, je suis focalisé et concentré que sur ce que je fais. Et donc, je suis vraiment dans l'instant présent. Et c'est ce qui fait que j'aime vraiment la natation. Et on pourra développer ça. Mais aussi, la natation en eau froide, c'est un rapport complètement différent à l'eau, ouais, à la nature, à la sécurité, à tout ce qu'il peut y avoir derrière. Donc, c'est ce que j'aime vraiment concrètement. Et puis, la technique. C'est intéressant de pouvoir toujours se dire qu'on peut développer sa technique,
ouais,
et d'apprendre et d'être curieux dans l'apprentissage des 4 nages. C'est ça qui me, m'éclate.
Ouais, mais ça revient souvent chez les nageurs, ouais, effectivement, l'obsession un petit peu permanente d'améliorer son geste, d'améliorer son coup de main, d'améliorer sa glisse. Il y a certains nageurs qui évoquent même une certaine frustration, tu vois, de pas être le meilleur nageur tous les jours et de pas avoir ça. Toi, c'était quoi ton rapport à ça, à cette technique justement?
Alors, moi j'avais un rapport particulier vis-à-vis de la technique, c'est que en fait mon objectif, je me suis donné 1 an pour faire ma traversée de la Manche à la nage et en slip de bain,
ouais,
mais avec la technique que j'avais. Parce que le problème, c'est que si on arrive avec une technique et on a tendance à vouloir tout casser pour tout reprendre, ça allait mettre beaucoup plus de temps. Donc forcément, c'était de se suradapter à la technique que j'avais aujourd'hui,
ouais,
même si elle n'est pas parfaite aux yeux de mon coach, mais qu'elle était aussi excellente pour moi, pour vraiment dans la continuité, dans les muscles que j'utilisais au quotidien. Donc moi, j'ai un rapport à la technique, c'est que j'aime progresser et je sais que ça passe forcément par de la technique et ça en demande beaucoup, mais aussi c'était aussi d'adapter avec l'existant et de l'adapter au format sur lequel j'allais nager. Donc c'était voilà mon rapport. aujourd'hui à la technique.
Ok, trop cool. Donc tu l'as évoqué, tu t'es lancé le défi de traverser la Manche en slip.
Ouais.
Dans une eau, c'est moins de 10 degrés, je crois.
Alors l'eau elle oscille forcément, elle dépend de la période. C'est à peu près aux alentours de 15-16 degrés.
Okay.
Ça peut descendre plus bas. Il y a des plaques qui peuvent descendre jusqu'à 12-13.
Ouais.
Vraiment quand on est sur les démarrages de la saison. Et ensuite, c'est à peu près 33 km à vol d'oiseau. Donc j'ai tendance à lire selon la police et après selon les manifestants, ça peut monter à 40, 50, 60 km. Ça dépend vraiment des courants, des dérives.
Ouais.
Donc voilà le sujet.
Et comment t'es venu l'idée de ce défi complètement fou ? Alors, ce qu'il faut savoir, il y a une vingtaine de Français, je crois. Je crois que t'es le 19e à l'avoir fait.
Alors, aujourd'hui, ça dépend sous quels critères. Oui, 19e, normalement, en slip de bain, en version classique, mais en tout, on est 33 à l'avoir réalisé.
Ouais.
C'est les chiffres aujourd'hui. On est 33 à avoir réalisé la traversée de la Manche à la nage en mode Matthew Webb. Matthew Webb, qui était dans les années 1800 et quelques, a été le premier à avoir traversé.
1870, ouais, le premier, ouais.
Tout nu, avec de la graisse de marsouin. Et
okay.
C'est lui qui a fait la première traversée. Et si tu veux un petit peu plus de détails vis-à-vis de la traversée, en fait, ça se fait toujours dans le sens Angleterre-France.
Ouais.
C'est obligatoire aujourd'hui. Il y a deux associations. Moi, je suis passé par l'association qui s'appelle la Channel Swimming Association. Ouais. Aujourd'hui, il faut grosso modo entre 1 an à 2 ans. Donc, il faut réserver 1 an à 2 ans.
À l'avance
pour pouvoir tenter la traversée, ce que je n'ai pas fait. Je n'avais pas de billet, moi, quand j'ai commencé à démarrer mon ascension de réaliser ça.
Ouais.
Et ensuite, pour t'expliquer vraiment juste le détail, donc, comme j'ai dit, c'est aux alentours c'est 33 km, 40 km selon les courants. Et ensuite, après, trois grosses difficultés. Les courants, surtout celui qui arrive quand on arrive sur la plage de Wissant, parce qu'on a un courant de face.
Ouais.
Donc,
okay.
On a une grosse partie après avoir fait 90% du chemin où là, il faut être capable de réaccélérer. Donc, c'est souvent que là où il y a les défauts existants sur les nageurs, les risques d'hypothermie, on vient d'en parler sur la nage, et aussi les méduses, qui est
okay.
un vrai enjeu.
Je savais pas qu'il y avait des méduses à cet endroit-là. Ouais.
Si, si. Il y a des beaux passages de méduses. Et il
okay.
y a pas mal de méduses. Ça fait partie de l'entraînement. Ça fait
okay,
partie des règles du jeu.
Donc attends, c'est un challenge hyper dur. Toi, t'étais pas forcément un nageur professionnel ou juste. Enfin, tu me diras un petit peu quel niveau t'avais juste avant. Mais ouais, c'est comment t'es venu l'idée et qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer dans cette traversée.
L'idée, elle est venue de vouloir réaliser quelque chose d'extraordinaire, de sortir de l'ordinaire et de tenter quelque chose qui me semblait fondamentalement impossible quand j'ai posé ça sur le papier.
Okay.
Ça, c'est un premier point. Et puis, il y a un deuxième sujet, c'est que je travaille avec certains de mes clients en coaching à leur dire c'est quoi votre rêve ou qu'est-ce que vous voulez laisser quand vous serez plus vieux. Et je me suis imposé les mêmes outils et à travailler ce même sujet-là. Donc, il y en avait un, c'était de réaliser quelque chose d'incroyablement impossible. Et le déclic est né d'un sujet très simple. Il y a un nageur qui s'appelle Pierre-Julien Pourentru, qui s'est okay. parti de l'EMS Bron et qui a fait la traversée de la Manche il y a 2 ans. Et j'ai trouvé ça complètement incroyable quand je suis tombé sur cette vidéo. Et je me suis dit, pourquoi pas moi ? Pourquoi on nous explique toujours qu'on peut réaliser quelque chose ? Et pourquoi pas le tenter ? Et qu'est-ce que je dois faire pour pouvoir le réaliser ? Donc le déclic, il est né de vouloir réaliser quelque chose d'extraordinaire.
Ouais.
Et la deuxième partie, avec ma fiancée, on a dû malheureusement rester à Lyon pour des raisons X. Et malgré ça, on s'est posé la question de savoir ce qu'on voulait réaliser depuis longtemps et quel était notre rêve. Moi, le mien, ça a été de réaliser la traversée de la Manche. Le sien, c'était d'écrire un roman et de se faire publier. Et là, elle est en passe de se faire publier. Donc, on s'est donné un an, jour pour jour, des challenges complètement impossibles, ce qui nous semblait de prime abord impossible, et de travailler et de se mettre dans cette dynamique-là.
Ok, trop cool. Et tu sais d'où ça vient, cette envie et ce besoin de faire quelque chose d'extraordinaire ? Tu vois, je le vois un peu, moi je le ressens un peu avec ce podcast, tu vois, qui est en train de grossir, et je me dis que effectivement je suis en train de créer une aventure que je trouve en tout cas extraordinaire. Mais toi, tu sais d'où ça vient, de ce besoin de moi j'ai le besoin de partage, tu vois, donc c'est pour ça que je fais un podcast, ça s'écoute, il y a plein de gens qui écoutent et c'est cool, j'ai besoin de partager ce que j'apprends. Mais toi tu sais d'où ça vient ce besoin?
Moi il vient de le besoin, il vient premièrement de montrer que c'est possible. En fait ce qui m'éclate, c'est pas de dire je traversais la Manche, parce qu'en fait en fin de compte on s'en fout un petit peu, mais on en parlera quand même. C'est pas du fait qu'on s'en fout, parce que c'est de montrer que en fait si on est capable de mettre ce qu'il faut en face,
ouais,
on est capable de pouvoir réaliser des choses qui nous paraissent hors de notre zone de confort. Et ça, probablement, ça fait partie de mon job et c'est mon ADN.
Ouais.
Et j'ai toujours aimé faire ça. Donc ça, c'est de montrer que c'est possible. Chacun sa Manche, chacun son le rêve qu'il veut réaliser. Et le deuxième, c'était aussi de vouloir éprouver mes valeurs personnelles, vouloir tenter d'éprouver mes valeurs personnelles, et notamment aussi d'éprouver les outils de coaching que j'ai pu apprendre, puisque j'ai rencontré beaucoup de coachs dans mon parcours entrepreneurial. Et en fait, je me suis toujours rendu compte que peu, je dis bien peu, n'avaient pas forcément itéré, testé ou mis en œuvre. Et en fait, j'avais une envie de tester, d'itérer, de mettre en œuvre sur quelque chose que je trouvais extraordinaire, en fait.
Ouais.
Et c'est ça qui m'a donné cette envie-là, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est ancré, quoi.
Ok, bon, ouais, c'est assez incroyable. Mais du coup, est-ce que tu peux nous dire un petit peu, voilà, quand t'es au tout début d'un projet comme ça, et du coup, c'est quoi les premiers outils que tu vas mettre en place? Comment est-ce que tu t'es organisé? Parce que tu t'es donné un an,
ouais,
peu plus d'un an,
un petit peu plus d'un an, ouais.
Ouais. Donc, c'est quoi, où tu commences par où, quoi?
Tu commences par te poser la question que tu ne sais pas tout et qu'est-ce que tu dois apprendre pour pouvoir y arriver.
Okay.
Donc moi j'ai fait un gros travail de fond de pourquoi je faisais les choses.
Ouais.
J'ai besoin, au-delà d'une question générationnelle, je pense que c'est humain, c'est de comprendre le sens de ce qu'on a envie de faire. Donc ça, premièrement, je me suis posé la question de pourquoi. J'ai travaillé mon pourquoi.
Ouais.
Parce que je me suis dit, et pour l'avoir vécu entrepreneurialement parlant, j'ai monté plusieurs entreprises avant et je me suis toujours rendu compte qu'on était capable de fédérer une équipe et de monter une équipe, peu importe le résultat, si notre pourquoi, il était vachement clair.
Ouais.
Donc ça, c'est le premier outil que j'ai utilisé. Donc je me suis posé des questions métaphysiques et pour un détail, c'est de se poser 5 fois la question pourquoi on fait les choses. Pourquoi
ouais.
tu veux traverser la Manche? Ok, pourquoi traverser la Manche? Ça te donne envie de réaliser un truc extraordinaire. Et en fait, le fait de se le poser 5 fois, vous allez voir que la dernière réponse, on peut pas se mentir à soi-même et on va exprimer foncièrement la substantifique moelle du sujet.
Ouais.
Ça, c'est vraiment le premier outil. Et puis le deuxième, c'est, OK, faire un état des lieux de savoir où est-ce que j'en suis en termes de nage, faire un état des lieux de savoir où est-ce que j'en étais en termes de froid, autant
ouais.
dire le néant. Et troisièement, mon état, mental et énergétique mental pour pouvoir me mettre au service de ça. Et donc la deuxième chose que j'ai fait, comme j'en ai parlé avec, comme je t'ai dit, ma fiancée. Et
ouais.
je lui ai dit, OK, je veux réaliser ça, mais voici ce qui risque de se passer. Voici le temps que ça va me prendre. Voici les risques qu'il peut y avoir entre nous. Voici les risques qu'il peut y avoir. Et en fait, j'ai mis énormément de temps à discuter avec les personnes qui étaient très proches de moi pour leur expliquer mon pourquoi.
Ouais.
Et en deuxième, pour vraiment aller émettre les règles du jeu entre nous pour dire voici ce que ça risque de prendre. Et moi, ça me prenait 30% de mon temps. Et 30% okay. de mon temps, on parle pas de journée ouvrée, hein, on parle 30% de mon temps ouais. dans une semaine complète. Donc ça prenait beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps.
Ouais.
Donc ça, c'est vraiment la deuxième chose.
Mm-hmm.
Et la troisième, c'est qu'est-ce que je dois apprendre? Et donc, de qui je dois m'entourer, qui est plus sachant que moi, qui va pouvoir m'aider à aller beaucoup plus vite parce qu'il a maîtrisé ou il a déjà vécu, ou il a déjà ressenti ça. Ouais. Et donc, j'ai, comme quand on va chercher un partenaire ou quelqu'un avec qui monter une structure, une boîte, un cofondateur ou autre, on va aller chercher des compétences et au-delà des compétences, une alchimie avec,
ouais.
Avec d'autres personnes au-delà de la compétence, mais l'alchimie qui va permettre de pouvoir réaliser ça. Et moi, je me suis entouré de 3 personnes.
Ok, c'est quelle compétence du coup?
Alors, la première grosse compétence, c'est Mathieu Tivol, que j'embrasse, il m'écoute, Mathieu,
merci.
Qui a été compétence sur la gestion de la très longue distance et la gestion du froid.
Okay.
Faut savoir qu'à partir de 10 km, les enjeux nutritionnels sont pas du tout les mêmes, mais là c'était vraiment d'apprendre comment nager très longtemps avec ma technique de nage et surtout à être capable de nager dans le froid.
Ouais.
Ça c'est vraiment le premier point, donc élément et pilier. Le deuxième c'est la nutrition. et aussi montrer patte blanche que on a aucun problème de santé. Et ça, je l'ai trouvé dans chez le docteur Arthur Molik, qui est spécialisé en ultra longue distance et qui s'occupe de la team ASICS en UTMB. Okay. Donc qui adore l'ultra distance, que j'ai très peu vu, mais que j'ai vu à des moments donnés très clés sur mes sujets alimentation et autres. Et la troisième, même si je suis coach, c'est toujours important d'avoir un œil extérieur et d'avoir un sparring partner. Et donc, j'avais un sparring partner sur la partie auto-hypnose et hypnose sur la gestion des peurs.
Okay.
Dont on pourra parler tout à l'heure, mais on ne se rend pas compte du nombre de peurs qu'on peut avoir quand on se lance un sujet comme celui-ci.
Bah, parlons-en dès maintenant. C'était quoi tes peurs et comment est-ce que tu as réussi à les dompter ?
J'adore en conférence... mettre la musique des Dents de la Mer, celle qui fait... Pourquoi ? Parce que un jour, je faisais un entraînement dans un lac de haute montagne. Je faisais un entraînement très simple. J'étais au bout de 3 km, j'étais très frais, tout allait très bien. Et qu'à un moment donné, j'ai creusé une bouée. Et je me suis dit, bah, tiens, je vais aller la toucher. Et en fait, je me suis relevé à 10 mètres avant la bouée. Et là, il y a cette musique dans ma tête qui a commencé à sonner, à faire... Tana. Donc, imaginez le lac de haute montagne. Donc, impossible qu'il y ait un squale de 6 mètres, comme dans les Dents de la Mer, qui passe juste en dessous de la bouée. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais créé un ancrage très puissant, qui était que quand je voyais une bouée, peu importe l'eau, peu importe l'endroit, j'entendais cette musique dans ma tête et que ça allait mettre une peur, mais... pas n'importe laquelle, une peur
de vie, quoi.
Une peur de vie. Mmh. Et exactement. Et en fait, par exemple, voilà le type de sujet sur lequel j'ai dû travailler. Et si on rentre un peu plus dans le détail, je suis allé faire de l'hypnose pour travailler et désancrer cette image qui existe entre la bouée, même dans les lacs, et cette musique-là, parce que des bouées, j'en ai rencontré quand même quelques-unes pendant mon entraînement.
Je m'étonne.
Et la deuxième, Mathieu, mon coach sur un entraînement en hiver, m'a dit en rigolant, tiens, va voir là-bas, on dirait qu'il y a des cygnes, les oiseaux, dans le lac de Miribel-Jonage où je nageais. Et moi, mécaniquement, je commence à y aller. Et au bout d'un quart d'heure, j'arrive devant, je me lève et je vois qu'il y a une douzaine de bouées blanches qui posent autour de moi. Donc, il me regarde, il fait « Maintenant, tu vas aller les toucher une par une et tu vas regarder ce qui se passe au fond. » Et en fait, voilà, c'est quand même aussi d'apprendre et d'aller au-delà de certaines peurs qui peuvent être complètement sclérosantes et bloquantes, quoi.
Ouais, ok. Mais c'est marrant, cette peur que tu as eue et le fait de comment est-ce que tu l'as résolue avec ton coach qui va t'emmener... limite te confronter un petit peu à ta peur directe, c'était ça le principal exercice, d'aller se confronter directement à la peur et remarquer que finalement elle est un peu infondée.
La peur était complètement infondée parce que j'ai même jamais eu peur du requin en tant que tel. En fait, j'ai jamais eu peur des endroits où j'ai nagé. Ouais. Et pourtant, j'ai nagé dans des endroits où il y avait des orques, j'ai nagé dans des endroits. En fait, j'ai jamais vraiment eu peur en fait, mais c'était juste l'ancrage de la bouée. C'est ça qui était vraiment intéressant. Et c'était déjà arrivé d'aller dans un endroit que tu ne connaissais pas et que le soir tu reviennes et tu te sentais plus fatigué que qu'habituellement. Est-ce que ça t'est déjà arrivé ?
Ouais, bien sûr, très souvent. Ouais.
Et en fait, c'est un phénomène très simple, c'est qu'à partir du moment donné où tu découvres quelque chose de nouveau, forcément ton cerveau va essayer d'aller lire tout ce qui se passe autour de nous. Et en fait, tout mon objectif de mon entraînement a été celui-ci, que mon cerveau découvre le moins possible de choses quand j'allais sauter dans la manche et que j'allais y aller. Donc ça emmène à aller... En tout, j'ai fait un entraînement de 1200 km. Je nage aux alentours de 3,5 km à l'heure.
Okay.
Donc j'ai fait 1200 km avec un mix piscine, un mix mer, un mix océan, vraiment, et un mix, mon lieu préféré, le lac, juste à côté pour les Lyonnais, de Miribel-Jonage, en hiver, en été, peu importe les conditions météo, hors orage. Et en fait, ce que je veux dire par là, c'est que j'ai essayé d'apprendre à mon cerveau qu'il ne découvre rien quand on est allé arriver. Donc c'est pour ça que je suis allé nager dans des conditions de tempête. S'il commence à y avoir un peu de vagues et autres, je comprends comment je fonctionne et de ma manière de trouver de la bonne glisse ou pas dans des phénomènes de vagues. En fait, ça a toujours été cette ambition-là de se faire piquer par une méduse avant Donc, je ne me suis pas fait piquer par une méduse exprès, mais le jour où j'ai appelé mon coach après un entraînement en disant « c'est bon, je me suis fait défoncer par une méduse », il était plutôt content. Parce que ça paraît rien, mais c'était de comprendre physiologiquement comment j'allais travailler suite à une piqûre de méduse. Donc, okay. Tu vois, ça a été vraiment d'aller dans toutes ces découvertes-là, et en fait, sur tout mon entraînement. C'était vraiment ça qui était important.
Donc, tu as essayé d'écrire tous les scénarios possibles, en fait, si je comprends bien.
J'ai essayé de vivre un maximum de scénarios et de les empiler un maximum.
Okay.
Sachant que je ne pouvais pas empiler le jour J. Ce que je veux dire par là, c'est que j'ai essayé de vivre un maximum de conditions. Je suis allé nager en manche, je suis allé nager dans plein d'endroits différents, mais je ne pouvais pas vivre ce moment-là comme quand on se prépare pour un marathon. On ne court pas forcément les 42 km avant.
Bien
donc
sûr.
Ce que je veux dire, c'est qu'on va aller découvrir des points stratégiques. Et ça a été un peu ce montage, mais plus par l'image. En fait, j'ai adoré essayer d'aller vivre plein de choses différentes.
Ok, c'est hyper intéressant. Et du coup, ça m'amène un petit peu au sujet du froid. Comment est-ce que tu t'es préparé au froid? Parce que moi, les auditeurs commencent à le savoir. Moi, je suis un gros adepte du froid. Je prends des douches gelées tous les matins. J'adore aller prendre un petit bain dans un lac gelé ou dans la Manche. Je prends vachement de plaisir à y aller. Mais toi, tu le tiens du coup sur une performance de plusieurs heures. Mmh. Comment est-ce que tu te prépares à ça?
L'objectif principal quand j'étais sur le bateau, c'est que quand je saute dans l'eau, le froid, c'est pas un sujet.
Okay.
En fait, le froid, ça n'est pas un sujet. Si c'est un sujet, c'est que ça va être compliqué. En fait, j'utilise cette métaphore-là, c'est qu'on entend souvent dire qu'il faut lutter contre le froid, il faut combattre le froid, il faut aller contre le froid. Moi, j'ai essayé de changer toute ma logique et toute ma sémantique autour de la gestion du froid. Premièrement, c'est que je ne lutte pas contre le froid. Le froid, c'est une donnée d'entrée.
Ouais.
C'est pour ça que, en fait, je ne m'habituais pas au froid que pendant mes entraînements. Je m'habitue au froid au quotidien, c'est-à-dire que l'hiver, je sortais en chemise. Ça veut dire qu'en fait, je me mettais constamment dans des sujets de froid. Ça, c'est parce que ça faisait partie de la donnée d'entrée.
Okay.
Et ensuite, deuxièmement, très simple, c'est que j'ai pris plus de 200 bains froids dans des eaux qui oscillaient entre 10 à 15 degrés, tout dépend du moment donné, au moins une demi-heure, donc en statique. Donc là, l'objectif, c'est physiologiquement, tous les jours, quand j'étais pas à l'entraînement au froid, tous les jours, c'était de montrer à son corps que le froid, tu pouvais rentrer dedans, qu'il n'y avait pas de problème et que ça n'allait pas poser de problème. Premièrement, et deuxièmement, aller dans des eaux beaucoup plus froides, mais comme des eaux beaucoup plus chaudes. En fait, on a tendance à croire qu'il faut s'entraîner que pour le froid. Et moi, je me suis entraîné sur les deux pans. Je me suis entraîné sur le très chaud, peu, parce que c'est très dur pour moi de rentrer dans l'eau chaude, beaucoup plus dur que dans l'eau froide, et ensuite d'aller chercher des eaux très froides. Donc j'ai fait du ice swimming, je suis allé nager dans des eaux qui étaient en dessous de 5 degrés, donc vraiment d'essayer d'aller chercher, d'aller comprendre comment fonctionnait mon corps, mais sachant que c'était pas mon objectif. Mon objectif, il était de tenir le plus longtemps dans les eaux froides, et mon record aujourd'hui, c'est sans protection, parce que j'en ai jamais utilisé, donc pas de combi ni rien, je nageais 1h30 dans l'eau à 9 degrés. En termes d'entraînement. Donc on a répété ça plusieurs fois pour arriver juste avant un stage qui est obligatoire. Il faut montrer qu'on est capable de nager plus de 6 heures dans une eau en dessous de 15 degrés pour avoir un bateau.
Okay.
Donc, et nous, notre stage, il s'est fait dans une eau à 12-9. Donc, à l'époque...
Nettement inférieur à 15 degrés. Quoi.
Exactement. Donc on s'entraîne vraiment à aller chercher ce froid-là. Donc c'est beaucoup de bains froids. Et aussi en parallèle, c'est vraiment d'essayer de trouver de quelle manière, quel rapport on a au froid. Et aujourd'hui, je prends beaucoup de plaisir à emmener des gens qui ont énormément de croyances autour du froid et que je pouvais avoir avant, et de montrer qu'en fait, oui, il y a une douleur au départ quand on rentre. Oui, c'est désagréable, mais au bout d'une minute 20, je me raccroche toujours à cette sensation. J'avais la première fois que j'ai nagé dans de l'eau très très froide, j'avais l'impression d'être une boule de feu.
Ouais, ça brûle. Ça
impressionnant.
Brûle.
Et au-delà de ça, ouais, mais tu sens toutes les cellules de ton corps.
Ouais.
Et c'est hyper impressionnant. Et j'ai toujours adoré me reconnecter à cette sensation. Et même quand c'était puisque je nageais très tôt le matin, même quand je sautais dans l'eau, on parlait du pourquoi. Quand je rentrais dans l'eau petit à petit, je me connectais toujours à pourquoi je fais ça, pourquoi je fais ça, pourquoi je fais ça. Et à chaque fois, ça faisait passer. Et puis on pouvait commencer à démarrer l'entraînement tranquillement.
Ok. T'as évoqué à l'instant le fait qu'il y avait que tu devais obtenir un bateau pour ta traversée.
Ouais.
Est-ce que tu peux parler un petit peu de la logistique du coup de ce que t'as dû préparer et de comment ça se passe un petit peu à la fois le jour J et peut-être les 24 dernières heures avant un exploit comme ça?
Alors, ça se prépare, comme j'ai dit tout à l'heure, normalement, je dis bien normalement pour ceux qui veulent tenter, ça se prend 1 à 2 ans à l'avance.
Ouais. Et tu réserves un slot?
En fait, il faut réserver un slot. Ça marche comme ça, c'est que, en fait, il y a des fenêtres, et dans ces fenêtres, il y a 4 nageurs par bateau qui passent un par un. En tout, il y a à peu près 10 de bateaux qui font passer chaque année. Okay. Et en fait, ce slot, on le prend, on nous donne une date. Moi, normalement, c'était entre le 9 et le 14 août.
Okay, ça c'était mon slot pour le faire.
Ouais. Oui. Okay. Alors, c'est pas nous qui choisissons, c'est le pilote du bateau. En fait, il y a une véritable incertitude et pour moi, c'est un jeu. Okay. Puisque, en fait, ce que je veux dire par là, c'est que ça va de slot 1 à 4 et le slot 4 passe toujours en dernier. Et s'il est sorti de la fenêtre, ça veut dire que peut-être qu'il ne passera pas. La plupart des bateaux font tout ce qui est possible pour pouvoir te faire passer. Mais il y a quand même un petit jeu qui se joue par rapport à la vitesse du nageur, par rapport aux conditions météorologiques. Et donc moi, par exemple, entre le 9 et le 14, on n'a pas pu passer parce qu'il y avait un typhon sur la Manche, très impressionnant, où il y avait énormément de...
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
De très grosses vagues et en fait les deux derniers nageurs, moi j'étais slot 4, n'ont pas pu passer malheureusement et donc on a été reporté. Donc ça c'est un premier point. Pour avoir un bateau, ça coûte à peu près 3000 pounds, juste la validation du bateau, on paye 1000 pounds pour sa validation et 2000 au pilote du bateau quand on arrive sur le ponton juste avant sur la prépa. Ça, c'est pour avoir un bateau et grosso modo, moi, ça m'a pris un budget de 10 000 euros pour pouvoir faire ça. Donc, en plus de ma casquette de nageur, de préparation au froid, je suis aussi allé chercher en parallèle des fonds, faire un petit crowdfunding. Donc, j'ai 47 personnes qui ont mis des fonds, des deniers personnels pour pouvoir, contre des conférences que j'ai fait derrière. Et j'ai 6 entreprises qui m'ont suivi en parallèle. J'en profite pour remercier tout le monde qui m'ont aidé à lever 10 000 euros pour pouvoir payer donc ces fameux 3000 pounds et ensuite derrière le déplacement de l'équipe. Donc là en équipe je n'avais que Mathieu et ma fiancée qui sont venus avec moi qui étaient sur le bateau. Donc on était 3, la location de la maison, la tente qui est là-bas, tous les frais inhérents à ça, plus après tous les stages et le matériel pour pouvoir se préparer.
Ok, merci de partager un petit peu ça. C'est toujours hyper inspirant, je trouve, les projets qui sont construits sur le long terme où il y a un petit besoin financier et finalement tu t'es donné les moyens d'y arriver.
Tout à fait.
Et en étape après étape, on se rend compte que tu vois c'est possible et ça peut paraître énorme comme ça quand on écoute, mais comme tu le détailles bien, ça permet de démystifier un peu la chose et ça donne envie de se lancer. Et du coup, comment tu te sens les 24 heures avant, 24 ans? Ah, juste avant de partir, t'es stressé, t'as peur, il y a la maison, il y a la musique
des dents de la mer.
Des dents de la mer.
Non, la musique des dents de la mer, si elle était là aussi. Alors, pour réexpliquer ce que je disais tout à l'heure, en fait, moi, c'est entre le 9 et le 14 août. Malheureusement, il y a eu un typhon et je me souviens très bien de cette scène. Mon pilote vient, m'envoie un message vers 11h, il me dit « je peux t'appeler ?» On s'appelle et il me dit « Grégoire, écoute, tu passeras pas sur ce slot et je sais pas si tu vas passer cette année. » Donc, j'ai beaucoup étudié l'état de flow dans ma manière de nager. On pourra redétailler ça, mais en fait, j'étais dans un état vraiment très élevé de concentration quand j'étais là-bas, et ça a fait tout redescendre et tout dégonfler. Et je m'en souviens, il y avait une tristesse qui émanait dans la maison, puisque j'ai dû dire ça à ma fiancée et à mon coach, à Mathieu, en leur disant, écoutez, je sais même pas si je vais pouvoir passer cette année, on ne sait pas, je n'aurai pas de date. Et je me souviens qu'ils étaient d'une tristesse phénoménale et moi, c'était pareil, il a fallu dealer avec cette émotion. Et ensuite, on a échangé avec le pilote du bateau qui m'a dit tous les dimanches, je t'explique et te dis quand est-ce que tu dois passer jusqu'à la fin du mois d'août. Et quand je te dis que c'est bon, tu as 72 heures pour arriver et pour être prêt. Et donc, moi, je suis reparti, on a plié les affaires, on est rentré en France. Moi, je suis allé mettre dans des lacs d'eau gelée. J'ai dû continuer à rester en préparation. On est allé dans la belle famille en Haute-Loire. Et ensuite, le pilote m'appelle le dimanche soir et dit « Écoute, Grégoire, mercredi matin, il faut que tu sois là, on y va. » Donc, ça a duré, tu vois, ça a fait une petite attente. Je suis parti le 21 août à 2h du matin. Et donc, okay. Mon bateau est parti à 2h du matin. On s'est retrouvé à minuit et demi au port. Et ensuite, là, il a fallu refaire toutes les affaires, aller chercher mon coach, prendre l'avion, descendre et aller à Londres. Et là, cette fois, on a fait un deal un peu différent. Ma fiancée m'attendait sur la plage. Et là, mon coach était le seul à bord pour pouvoir me ravitailler, pour pouvoir faire l'ARP, parce qu'il s'amusait à faire des vidéos, à faire tout ça. Et pour te dire l'état émotionnel dans lequel je suis, mais c'est de l'excitation pure. Je me suis entraîné 1300 km en tout avec la traversée de la Manche. Qu'est-ce que 42 km ? Qu'est-ce que 42 km sur 1300 km ? Et en fait, j'ai tout fait pour désémotionner. Tout ça parce qu'en fait, toutes les émotions, je les ai eues pendant toute la phase préparatoire. Et en fait, j'ai toujours tendance à dire que le voyage, il vaut autant que la destination. Et là, ma destination, quand j'étais sur le bateau, j'étais soulagé d'une chose. Je me suis dit que j'avais mis en place tout ce que je pouvais. Bien sûr que j'aurais pu en faire plus. Mais je n'avais aucun regret, tant à ma préparation, tant aux gens qui gravitaient autour, tant à l'envie. Et je n'avais qu'une envie, c'était de me dire « Go, on y va ». Et il faut y aller. Et donc, j'étais dans une énergie assez folle. Et j'ai une stratégie, moi, pour me mettre dans un état qui s'appelle l'état de flow. C'est-à-dire que quand je nage, je ne pense pas à mes émotions. Je ne suis pas du tout dans mes émotions. Je suis dans le kiff du moment, même si c'est difficile. Et je me concentre sur ma respiration. Donc, je suis dans un état un peu semi-hypnotique, mais qui me met dans un état émotionnel de fréquence très puissant. Et je dis pas que j'arrive à tout le temps me mettre dedans, mais en fait j'ai appris à me mettre dans cette bulle là et à être complètement concentré, limite à fermer les yeux. Okay. Donc j'étais dans cet état quand si on regarde les vidéos, en fait on me voit avec des yeux hyper concentrés et vraiment très très focalisé sur mon objectif.
Ok, t'as des petits conseils un peu pour essayer de quelqu'un qui a envie de se renseigner un peu sur cet état de flow et pour essayer de se mettre dedans. Toi, c'était quoi tes petits conseils pour parce qu'on en parle pas mal dans ce podcast, effectivement, cet état un petit peu second où t'as l'impression qu'il peut plus rien t'arriver. Et généralement, certains arrivent à l'atteindre sur des moments très courts. Toi, tu fais comment pour le faire durer déjà, tu fais comment pour rentrer dedans et ensuite tu fais comment pour le faire durer?
Alors, j'aurais vraiment aimé être le mec qui filmait le port de Douvres à minuit et demi du matin parce qu'il a dû voir un nageur avec sa cape, son bonnet, un gros casque sur les oreilles et en train de courir, en train de s'échauffer, de faire des incantations, de faire des respirations, de crier fort, de se mettre dans une émotion. En fait, j'ai une stratégie que j'utilise tous les matins. Tu as parlé de douche froide. Bon, bah, là, j'avais pas besoin parce que je sais que ça allait, j'allais prendre mon bain froid toute la journée. Mais en fait, il y a ça, mais surtout il y a la respiration. Et un truc que j'adore faire, c'est on inspire 4 fois et on pousse et on expire 4 fois. Et en fait, on fait ça une vingtaine de fois. Rien que ça, ça permet d'alimenter en oxygène toutes les cellules et permet de se mettre en éveil. Et ensuite, après, c'est tout un sujet d'incantation que je fais à moi-même qui peuvent paraître très trivial, mais en fait, juste de se le dire très haut, de dire qu'on a les capacités, de se connecter à ça. En fait, c'est ce qui met mécaniquement dans un état de flow. Et ensuite, il y a un dernier point, c'est la visualisation. Et moi, j'ai visualisé mon image de démarrage et mon image d'arrivée. Et en fait, je me suis constamment raccroché à cette image. Et donc, ce qui me crée un déclic. Et après, moi, j'ai un dernier petit tip, c'est que j'écoute une chanson d'Eminem qui est très rageuse de prime abord, mais moi, qui me met dans un état second, prêt à en découdre et prêt à y aller, et qui me met en patate dès que je rentre dedans.
C'est super plaisant de parler avec toi parce qu'on voit que t'as bossé le sujet à fond et de toute façon c'est ton métier, on en parlera juste après. Mais t'as quand même eu des doutes dans cette traversée, il y a eu des moments durs.
Alors la traversée en tant que telle, comme je disais, en fait j'avais une stratégie qui était très simple, très binaire. C'était bon, profite de l'instant. Cependant, dès que je commence à avoir une émotion, qu'elle soit positive ou qu'elle soit négative, qu'on se comprenne bien, que ce soit une émotion de joie. Au-delà du positif et du négatif, aucun jugement dessus. Que ce soit une émotion de joie ou une émotion de colère, J'avais une stratégie très bête, c'était ferme ta gueule, laisse passer et respire. Ça peut paraître très violent. J'ai dû me le dire énormément de fois, mais c'était en toute bienveillance avec moi-même, mais je sais que c'était la seule stratégie à ces moments donnés-là pour pas être dans mon ressenti. Puisque si on commence à se dire « Ah tiens, Laura Lefrod, ah tiens, je viens de me faire défoncer la gueule par deux méduses et elles m'ont fait très très mal. » Et ouais. Si on commence à réfléchir, tiens, j'ai mal aux épaules. Tiens, ça fait combien de temps que je nage? Tiens, qu'est-ce qu'ils font sur le bateau? En fait, je me suis rendu compte que si j'étais moi, le froid, ça me catalyse mes émotions et ça les exacerbe. Et ouais. Donc, en fait, c'était vraiment cet objectif-là. C'était vraiment de faire redescendre. Et en fait, c'était ma plus belle stratégie et je le réutilise de temps en temps. C'est au lieu d'être toujours dans le néocortex, vraiment être là et essayer de se connecter un maximum sur le flow. Et pour moi, c'était la curiosité d'aller faire des interviews à titre personnel, d'aller rencontrer des gens. Bah, qui avait des rapports au froid plutôt différents, d'aller rencontrer des gens plutôt ouais. différents. Et c'est ça qui m'a éclaté dans l'histoire.
Okay. Ouais, trop cool. Mais j'imagine, enfin, toi, tu t'es vachement conditionné psychologiquement. L'arrivée, ça a dû te faire tout drôle, non? Tu dois avoir la pression qui redescend. Tu tombes dans les pommes, tu t'endors. Qu'est-ce qui se passe quand tu arrives?
L'arrivée sur la plage, elle est folle. Il doit y avoir une cinquantaine de personnes. Il y a trois personnes de ma famille. Mmh. Parce que malheureusement, ils n'ont pas pu venir la deuxième fois. Puisque la première fois, il y en avait certains qui étaient là. Et comme ma fenêtre s'est décalée, c'était un peu compliqué. Juste avant d'arriver sur la plage, il se passe un phénomène, c'est que comme j'en parlais, 90% des abandons se font ici, c'est qu'on appelle le cimetière des nageurs. C'est que là, il faut être capable de réaccélérer. D'ailleurs, pour la petite anecdote, mon coach m'a dit que j'ai jamais mis autant de jambes là qu'en un an d'entraînement. Donc j'ai vraiment poussé à réaccélérer. C'est pour ça qu'on appelle vraiment l'Everest, c'est que le dernière partie est vraiment très particulière. Et en fait, il s'est passé un phénomène, c'est qu'on avait une règle du jeu entre Mathieu et moi. La règle du jeu était simple. On en avait plein d'autres, mais il ne devait pas me dire combien de temps j'avais nagé, combien de temps il me restait à nager, combien de kilomètres. En fait, je ne voulais pas de chiffres pour rester dans la sensation. Puisqu'en fait, d'ailleurs, par exemple, moi, j'ai fait tout mon entraînement sans montre. J'ai fait tout mon entraînement sans chrono. Mon coach avait des chronos, bien sûr, mais moi, j'ai essayé au maximum de toujours travailler que sur le ressenti.
Okay. Et c'est ouf, ça, parce qu'on voit de plus en plus, tu vois, de coureurs, de nageurs qui essayent de capturer le maximum de data, qui sont toujours à la recherche de la donnée, du chronomètre, de la seconde, du mètre en plus. Toi, t'as essayé de t'en détacher au maximum.
Mon maître étalon sur ça, c'est quand on s'entraînait en piscine et qu'on faisait des... On travaillait vraiment dans des phases où ça demandait beaucoup de CO2, beaucoup d'oxygène. Ouais. Et c'est à ce moment donné-là. Et pour revenir ici, en fait, je ne saurais jamais s'il a fait exprès ou pas. Il ne le dira jamais. Mais en fait, on arrive et en fait, si on regarde les courbes, à un moment donné, le bateau, il tourne à 180 et on sait qu'on arrive devant le mur. On sait que c'est le moment et que c'est là. Et moi, je vois le bateau tourner. J'arrête pour boire un coup, manger un bout et me dire « Allez, ok, c'est la dernière partie, j'avais nagé déjà 10 heures. » Il me regarde, il fait « Bon, Grégor, il te reste entre 20 minutes et 1h30 pour arriver sur la plage. » Et moi, dans ma tête, je me dis « Allez, 20 minutes, c'est qu'il veut vraiment mettre la pression, mais en une demi-heure, c'est fait. » Ça m'a pris 4 heures. Ça m'a pris 4 heures. 4 heures pour passer cette fin d'étape et autres. Et en fait, c'est ça qui a été très drôle, c'est que j'étais très énervé. Et d'où la stratégie de dire « Chut, chut, laisse passer et respire. » Et en fait, sur cette fin de traversée, j'étais très énervé contre lui, mais pas méchamment, hein, mais c'est parce que je me disais « Mais pourquoi il m'a dit ça? Pourquoi il m'a dit 1h30 ?» Et en fait, ça m'a complètement distrait, j'ai laissé passer le truc et là, je me suis remis dans un état de flow et là, j'ai réaccéléré. Et en fait, c'était ça qui était important. Et tu m'as demandé quelle sensation j'ai ressenti à la fin. De la rage. J'avais de la rage, mais pas de la rage. Contre mon coach, j'avais de la rage de sortir. Ça, c'était tellement fort, c'était tellement bon. Et le deuxième, c'était l'amour. Je sais que ça peut paraître très galvaudé, mais comme je l'ai dit au tout départ, j'ai préparé ça avec ma fiancée. On a limite fait un pacte ensemble. On a beaucoup discuté ensemble. Et quand on s'est vu sur la plage, on s'est dit, regarde ce qu'on peut faire. Regarde quand on met l'entraînement, quand on soutient, et regarde ce qu'on peut faire. Et moi, je me souviens de cette image, et il y a une image où on la voit de dos, où je l'embrasse, et en fait, je me souviens vraiment, vraiment, vraiment de ça. Ça me donne encore des sentiments de ouf quand j'en parle, parce que c'était fou, et l'amour que j'avais, ma mère qui était là, ma sœur qui était là, que j'ai partagé avec eux, et aussi à dire, voilà, quand on fait quelque chose, si ça vient, on sait pourquoi, si on y met la passion, si on y met les sentiments, si on y met tout ce qui va derrière, on peut réaliser des choses qui peuvent être extraordinaires.
Ouais, mais
et c'est ça qui m'a éclaté. Et pour finir, en fait, le partage que j'ai eu avec Mathieu en rentrant sur le bateau, qui était juste dingue. Et tu m'as demandé qu'est-ce qui s'est passé physiquement. Il s'est passé un phénomène très particulier. Je suis remonté, donc on n'a pas le droit de rester sur la plage plus d'un quart d'heure. Les autorités françaises nous tolèrent, mais notre passeport est considéré en Angleterre. Donc ça veut dire qu'on est considéré comme sans papier sur notre propre territoire.
Donc tu dois refaire demi-tour.
Donc tu dois faire demi-tour et t'as une heure et demie de bateau. Et en fait, j'ai repris la petite esquif parce qu'en fait, il peut pas, à partir de 600 mètres, il déploie une petite esquif qui va nous suivre sur les 300 derniers mètres pour assurer notre sécurité et pour être au plus proche de l'arrivée pour voir si on arrive correctement. Je remonte sur cette petite esquif, elle me ramène sur ce bateau, je discute. Voilà, il y a un sentiment d'accomplissement phénoménal sur le bateau et je me retourne vers Mathieu. Au bout de 30 minutes, je regarde, il faut que je m'endorme. Il faut que j'aille me coucher. Vraiment fatigué. Et il me fait « Ok, pas de problème ». Il m'enroule dans une serviette. Je m'endors. Ma fiancée l'appelle au téléphone pour lui demander comment je vais. Lui, au téléphone, dit « Ouais, t'inquiète pas, tout va bien ». Il se retourne vers moi, il me regarde. Je me suis endormi, les yeux grands ouverts. Tout raide, les yeux grands ouverts, comme ça. Et dans sa tête, il me regarde, il fait « Oh, je crois qu'il est mort ». Je crois qu'il est mort et il commence à me pousser, je ne bouge pas. Il avait ma fiancée au téléphone qui posait la question de savoir comment j'allais. Et il me raconte après dans sa tête, il me dit « Mais comment je vais lui annoncer ça ?» Il me repousse et là, je me réveille. Et en fait, c'est un phénomène très particulier. C'est qu'en fait, mon corps a surcompensé les 14 000 calories cramées pendant la journée, a surcompensé tout ça. Et en fait, il fallait. Et pendant 20 minutes, je me suis endormi, les yeux grands ouverts. Et donc, j'ai surcompensé un peu comme quand on travaille l'opposé, quand on fait de la musculation et autres. Bah là, c'était pareil. Je demandais beaucoup d'attention et là, tout s'est bloqué.
Okay.
Tout s'est bloqué.
C'est drôle. C'est hyper marrant. Et aujourd'hui, tu vois, on va parler un petit peu de ton job et tout, parce que ça m'intéresse pas mal. Mais du coup, tu fais du coaching. Qu'est-ce que ça t'a apporté professionnellement d'avoir fait cette traversée? Tu nous as un peu raconté émotionnellement et personnellement ce que ça t'avait apporté. Est-ce que professionnellement, ça t'a apporté des choses aussi?
En fait, ça va faire à peu près déjà plus de 6 ans que je coach, déjà plus de 6 ans que je fais des interviews de gens de comprendre qu'est-ce qui crée le déclic, qu'est-ce qui fait le déclic de faire quelque chose comme ça. Et en fait, moi, mon déclic, je te l'ai raconté tout à l'heure, et en fait, ça premièrement, c'est un vrai sujet. Le deuxième, c'est que il y a un vrai enjeu. Aujourd'hui, j'ai toujours passé ma vie à poser des questions, que ce soit les gens avec qui je me suis associé, que ce soit les personnes avec qui j'ai eu la chance d'avoir comme salarié dans les structures que j'avais montées. Mais en fait, j'ai toujours aimé coacher, j'ai toujours aimé ça, j'ai toujours aimé travailler là-dessus, me renseigner comment faisaient les coachs sportifs, comment faisaient ça. Et ma sœur un jour m'attendait le livre d'un grand coach hyper connu qui s'appelle Tony Robbins, que je souhaite rencontrer un jour. Et ce mec-là, en fait, m'a aidé à transformer complètement ma vie. Et en fait, j'ai toujours été ancré là-dessus, ça m'a toujours éclaté et en fait j'ai commencé à apprendre de mon côté à être hyper, hyper, hyper curieux. Donc qu'est-ce que ça m'a apporté professionnellement? Ça m'a apporté 3 choses. La première, que en fait il faut tester les outils et en fait quand je parle à un entrepreneur, quand je parle à un sportif, quand je parle à quelqu'un, je suis aligné avec moi-même, je sais de quoi je parle. Je dis pas parce que j'ai traversé la Manche, comme je l'ai dit tout à l'heure, on s'en fout. En fait ce qui est important c'est que quand j'en parle, je l'ai vécu et ça irradie. Ça, premièrement. Deuxièmement, il y a un rôle aussi, à un moment, dans le changement, il y a quelqu'un que j'aime beaucoup qui s'appelle Idriss Aberkane, qui travaille beaucoup sur les sujets d'innovation et c'est ce que je travaille beaucoup avec mes clients. C'est que l'innovation, à un moment donné, on la considère comme impossible et après comme dangereuse et après comme acquise. Et en fait, j'adore travailler dans ce phénomène d'impossibilité parce que très souvent, l'impossibilité, elle se décline par une personne qui va prendre le lead et qui va montrer que c'est possible. Et en sport, on a un très bel exemple, moi qui suis pas un coureur, mais de Kipchoge qui vient de casser la barre des 2 heures. Mmh. Et ce qui va être très important, c'est que cette barre des 2 heures va être cassée de manière officielle dans très peu de temps et va être aussi cassée par d'autres, peut-être bien pas sûr. Aussi rapides. Et en fait, c'est ça que je trouve génial, c'est cette espèce de déclic-là. Et en fait, le fait de traverser la Manche, c'est aussi de prouver qu'il n'y a pas besoin de comment dire, il n'y a pas besoin d'absolument d'avoir été champion du monde du 100 mètres, du 50 mètres. D'ailleurs, il y a des très grands sportifs qui ont tenté la Manche, qui n'ont pas réussi, parce que ça demandait un aspect aventure complètement différent que l'aspect purement performance et sportif. Ouais. Et le troisième point, c'est que je suis jeune. Et pour beaucoup de personnes en face de moi, c'est pas un atout d'être jeune en étant coach, mais pour moi c'est un pur atout. Pour une raison très simple, c'est que en fait je n'ai pas créé des croyances dans tous les sens. Et en fait je peux modéliser énormément de choses. Et le fait de l'avoir fait par rapport à la traversée, quand je dis je peux modéliser, je peux aller dans plein d'environnements différents sans avoir de parti pris et sans avoir d'a priori pour éviter de les imposer à mes clients. Et c'est ça que je trouve juste top. Et en parallèle, là, je fais des conférences pour montrer comment monter une équipe avec le pourquoi, comment développer ça. Et voilà, je me sers de ça pour montrer qu'il y a des possibilités, pas que par le sport, mais quelle est la Manche. C'est ce que je pose comme question à mon client qui vient me voir par rapport à la Manche. Je dis, c'est quoi ta Manche à toi? Qu'est-ce que tu as envie de faire? Qu'est-ce que tu as envie de réaliser d'extraordinaire? Surtout, qu'est-ce que tu es capable de mettre en face pour le faire?
Okay.
Et ça me sert foncièrement aujourd'hui au quotidien.
Bon, bah super, trop cool. Et s'il y a des gens qui s'intéressent un petit peu à ton travail, où est-ce qu'il faut les rediriger, comment est-ce qu'ils peuvent te contacter?
Ils peuvent me contacter sur LinkedIn, sur Gregor Osbolt. Et là, je suis en train de développer mon site internet, mais je réponds beaucoup plus vite sur mon LinkedIn. Et on fait aussi pas mal de conférences pour l'instant sur Lyon. On en a quelques-unes à Paris qui vont arriver. Sur ça, en fait, l'acte d'entreprendre. Et la traversée de la Manche, je fais un parallèle vraiment entre ces deux phénomènes, puisque je crois que tout le monde va devoir apprendre les capacités d'un entrepreneur. Je ne dis pas que tout le monde doit être entrepreneur, je dis juste que en fait, la curiosité, la flexibilité, la capacité à aller se prendre des portes, la capacité à inventer son job. Et en fait, je pense qu'il y a un vrai travail de fond à faire, et c'est ce que je fais aujourd'hui avec mes clients, de travailler sur cette thématique-là au-delà de l'entrepreneuriat, parce que je travaille avec des intrapreneurs, je travaille avec des personnes qui veulent réaliser des choses extraordinaires de tous bords. Moi, ce qui m'éclate, c'est cet aspect entreprendre sa vie, oser entreprendre sa vie et notamment entreprendre ses rêves. Et c'est ce dont pourquoi je suis fait, c'est une de mes missions de vie.
Ok, trop chouette. En tout cas, merci beaucoup. Pour la fin, j'ai un petit... je réinvente un petit peu mon format. J'ai une petite dizaine de questions sur lesquelles on peut soit répondre un peu du tac au tac, soit détailler un petit peu plus. Est-ce que ça te dit de jouer le jeu?
Vas-y, je t'écoute.
Vas-y. C'est quoi une bonne journée pour toi?
C'est une journée où j'ai appris quelque chose.
Ok, trop cool. Tu te souviens de ton pire souvenir de sport? Pire entraînement?
J'ai fait beaucoup de sport co, j'ai joué au basket pendant un petit laps de temps, j'étais très nul.
Ouais.
Je l'avoue aujourd'hui. et je me suis explosé le genou en faisant juste une feinte. Et mon genou avait quadruplé de volume. Et c'est pour ça que je me suis remis à la natation après, parce que c'était le seul sport le moins traumatisant. Donc c'est l'un de mes pires souvenirs de sport.
La blessure. T'as une idole aujourd'hui dans le sport, ou il y a une personnalité qui t'inspire plus que
j'ai plein d'idoles on parlait en coaching des idoles, j'ai des gens comme Tony Robbins que je trouve fabuleux.
Ouais, c'est incroyable. Moi, il a changé ma vie aussi, et c'est le premier bouquin de développement personnel que j'ai lu, et après bon, j'ai attrapé un peu le virus et tout, mais ces livres sont absolument incroyables. Moi, j'avais lu L'éveil de votre puissance intérieure,
ouais,
je crois, le premier, et après j'avais lu Pouvoir illimité, mais bon, les deux se recoupent beaucoup, mais
ouais.
Ça, c'est vraiment, ça ouvre les yeux et ça permet d'avoir de vivre sa vie autrement, quoi.
Exactement. Pour moi, il fait partie des gens qui ont transformé, qui ont foncièrement transformé. Et tu parlais de sportifs. Moi, j'adore un sportif qui s'appelle Fosbury, qui en fait a renversé, a été un game changer dans sa pratique du saut en hauteur. Et je trouve ça, en fait, voilà, c'est cette typologie de personnalité que je trouve vraiment intéressante.
Trop cool. T'as des regrets dans dans ta pratique sportive ou professionnelle ?
Est-ce que j'ai des regrets ? Non. Tout a été un apprentissage, même si j'ai vécu des associations difficiles, même si j'ai vécu des... Non, même si ça n'a pas toujours été facile et m'a pas mis dans les émotions les plus positives, selon moi, non, j'ai pas de regrets parce que je me suis toujours attelé à essayer de vivre dans mes propres choses et pas dans les choses d'autres personnes. De toute façon, je sais pas faire et mon corps me dit ne le fais pas quand je vis dans les choses d'autres personnes. Donc, j'ai pas de regrets. Je peux avoir des remords, mais j'ai pas de regrets.
Ok. C'est quoi ton plus bel échec ?
Mon plus bel échec, ça a été de planter ma première boîte qui faisait des diagnostics mobilité pour le compte des seniors en situation de dépendance avec des clients qui étaient les assureurs, les mutuelles et les caisses d'assurance de retraite.
Okay.
Et mon plus bel échec, au-delà de parler d'échec, mais en fait, j'ai pas visé le bon marché, au bon endroit, au bon moment, de par ma décision. Et donc, ça m'a coûté un petit peu d'argent, ça m'a fait prendre une bonne grosse baffe à l'ego et m'a fait apprendre et relativiser que, en fait, on parle souvent de prise de risque, mais n'oublions pas qu'il y a des gens qui prennent vraiment des risques. Prendre des risques, c'est être la BRI qui rentre dans un magasin où il y a quelqu'un qui pourrait le tuer. Ça, c'est vraiment prendre des risques vitaux. On prend des risques, bien sûr, mais ça m'a fait relativiser sur la prise de risque à proprement parler. Donc, il y a plein de sujets là-dessus, hyper intéressants, notamment sur l'entrepreneuriat. J'en ai fait un très gros parallèle.
Tu te vois dans 10 ans ?
Je me vois en train de pouvoir mettre à disposition mes connaissances, la curiosité et ma capacité à coacher au service de plusieurs milliers de personnes, en fait. C'est là où je me vois, même à 5 ans.
Ok, allez, petit défi, on se revoit dans 5 ans alors.
Avec plaisir.
Ça a été accompli. C'est quoi le meilleur conseil qu'on t'ait donné ?
Le meilleur conseil, le meilleur conseil qu'on ait pu me donner, c'est le fait de suivre, en fait, à un moment donné, son instinct. Et à chaque fois que je ne l'ai pas suivi, ça ne s'est pas toujours très bien terminé. Donc, je ne pourrais même pas citer la personne qui m'a dit ça, mais c'est d'essayer de suivre un maximum son instinct. Et en fait... Et deuxièmement, aujourd'hui, le conseil que je me donne, c'est que tout est possible. Bien sûr que c'est plus possible que je joue en NBA. Déjà, je fais pas la taille adéquate. 1m90, c'est le strict minimum. Enfin, pas pour tous. Mais ce que je veux dire par là, c'est que, en fait, si on se donne les moyens et qu'on sait pourquoi on le fait, en fait, tout est foncièrement possible.
Okay.
Mais juste, faut avoir fait ce travail d'aller dans ses peurs, d'aller travailler sur soi-même, d'aller vraiment et de faire foncièrement ce travail qui n'est pas donné à tout le monde parce qu'il faut affronter concrètement qui on est, ce qu'on veut, et peut-être ça va peut-être des fois à l'opposé de notre famille, à l'opposé des gens avec qui on gravite, et ça peut, c'est pas toujours facile,
ouais,
mais pas impossible.
Ok, bah, ça sera un super beau mot de la fin. Là, j'arrive avec ma dernière question. La question usuelle, c'est de savoir est-ce que tu as des sportifs à me recommander que je devrais aller interviewer sur le podcast Extraterrien.
Je te conseillerais d'aller voir une personne que j'ai adoré avoir au téléphone, que j'aime beaucoup, qui s'appelle Mathieu Torder,
okay.
Qui est un explorateur.
Il est passé sur
le
podcast.
C'est vrai qu'il est passé sur le podcast, c'est vrai. Ah ouais, non, en plus c'est même là, je crois que j'avais découvert, alors autant pour moi.
Il n'y a pas de souci, t'inquiète.
Mathieu Torder.
Il est super chouette et je recommande à tous les auditeurs, si vous ne l'avez pas écouté, cet épisode.
Réécouter le podcast. Moi j'aime beaucoup Groupiron, que je trouve intéressant, de par sa posture aujourd'hui, de par les années qui ont passé et en fait de sa manière concrètement à te donner cette force-là de se dire que quand il était tout en haut du champ de boss aux Jeux Olympiques, pour lui il pouvait rien se passer d'autre que d'avoir la médaille, et en fait aujourd'hui tout ce rapport qu'il avait à ça, que je trouvais très intéressant. C'est un sportif que j'aime beaucoup. Et après il y a aussi beaucoup de sportifs amateurs qui se lancent beaucoup de choses, dans des sports qui sont un peu moins connus, et moi j'ai eu l'occasion de rencontrer quelques-uns. On parlait de Cyril Blanchard tout à l'heure que j'ai trouvé très intéressant, avec lequel échanger.
trop cool. Tu me donneras quelques noms alors.
Ouais, pas de problème.
Super. Merci beaucoup, Grégoire.
De rien. Belle journée.
Et salut.
Salut.
Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, c'est sûrement que l'épisode vous a plu. Donc n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous et à vous abonner pour ne louper aucun épisode. J'ai mis tous les liens dans la description, donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Et sinon, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine interview. Ciao.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.